Voilà, bonsoir. Je suis avec vous là pour l'étude du jeudi soir et nous allons continuer notre série d'études dans les Actes des Apôtres, ou disons plutôt les Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres. Et nous sommes au chapitre 5. La semaine dernière, nous avons vu cette expérience d'Ananias et Saphira. Et comment, et on avait donné comme sujet du passage, c'était l'être et le paraître. Certains sont vrais et certains sont plus concentrés à paraître vrais comme les autres. Et donc nous arrivons au chapitre. Donc ce que nous avons vu, c'est qu'à la fin de cette expérience, Ananias et Saphira sont morts et. Il nous dit au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Retenez cette expression, tous ceux qui apprirent ces choses, parce qu'on va le revoir. Et donc, à partir du verset 12, et nous allons voir le verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, et vous allez voir que finalement cette expérience d'Ananias et Saphira, elle a fait une œuvre de purification, qui a pu libérer les apôtres, plutôt d'être en train de faire les pompiers pour régler des problèmes dans l'Église, eh bien, ils peuvent se donner pleinement à l'enseignement et à la prédication. Et donc, il y a un travail de purification qui s'est fait, et donc, l'Esprit prend possession de ces apôtres et les utilise. Et nous voyons là, à partir du verset 12, donc, il nous dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Donc, c'est un signe de pleine liberté où l'Esprit est en train d'agir. Et le chapitre se termine par « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Donc, là, ce qui va se passer entre ces deux versets, mais finalement, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train d'agir et qui contrôle. Finalement, on a l'impression, et souvent, on a cette impression, lorsqu'il y a persécution, lorsqu'il y a opposition, les chrétiens ont le tort de parfois sentir qu'ils sont passifs, qu'ils sont en train de subir quelque chose. Mais si vous regardez de très près ce passage, vous le lisez peut-être plus d'une fois, en fait, vous allez voir que c'est le Seigneur qui contrôle toute la situation et c'est les Sadducéens et les pharisiens qui sont en train de subir une situation. Et ils ne savent pas comment s'en sortir. On va essayer de le faire ressortir parce que c'est vrai et nous devons nous retrouver dans cela aussi. Hein. C'est que finalement, nous ne sommes pas là pour subir ce monde, mais c'est le monde qui nous subit. Hein. Donc, je continue à lire ici, puis donc il nous dit que les apôtres se tenaient ensemble au portique de Salomon, hein, au verset 12. Eh bien, ils se tiennent juste là où Jésus s'était tenu par le passé, hein, dans Jean chapitre 10, verset 23. Jésus était aussi, il a enseigné, et c'est juste après le passage où il parle du fait qu'il est le bon berger, et que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Hein, et donc, c'est le portique de Salomon. Mais au verset 13, il dit « Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. » Et la question, c'est qui sont ces autres ? Eh bien, je suggère, ce sont tous ceux, au verset 11, tous ceux qui apprirent ces choses. Quand ils ont entendu ce qui était arrivé à Ananias et Saphira, tous ces gens qui sont un peu pour paraître et pas des vrais ou pas sincères en tous les cas, même si peut-être ils auraient pu être croyants, mais ils s'étaient laissés emporter par l'apparence, eh bien, ceux-là, eux, avaient peur de se joindre aux apôtres. Ils tremblaient encore. Mais ce qu'on trouve extraordinaire, c'est que mais le peuple les louait hautement. Hein, donc là, ils avaient une bonne réputation parmi le peuple. Et il nous dit au verset 13, « Et le nombre de ceux qui croient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. » Remarquez comment on identifie le peuple de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont baptisés, ce n'est pas ceux qui sont membres de l'Église, ce n'est pas ceux qui portent le nom d'un apôtre ou d'une sainte, mais ce sont ceux qui croyaient. Hein. Pour Dieu, pour lui, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient au Seigneur et ceux qui ne l'ont pas cru ou qui ne le connaissent pas. Et hommes et femmes, aucune distinction. Et après, vous voyez comment on commence à leur apporter les malades et au point qu'on les pose le long de la route et puis Pierre qui passe et son ombre les guérit et on trouve tout ça très extraordinaire. Mais vous savez, le fait qu'il y ait des guérisons, le fait que le peuple fasse ça, hein, il ne faut pas se laisser tromper. Ce n'est pas forcément des gens qui deviennent des disciples du Seigneur. Hein. Jésus en avait connu plein. Des gens qui venaient à lui, des foules qui venaient à lui pour être guéris, tout ça. Mais bon, quand il était sur la croix, il n'y avait plus personne. Je pense à cette parabole du Seigneur dans Matthieu 13 et verset 30 où il parle de l'ivraie. Et l'ivraie qui pousse avec la bonne graine. Et le Seigneur, voilà, ces gens, et puis il dit, bon, il y a le mélange, tous entendent, et dans une église, parfois, on sait qu'il y a des gens qui sont un peu charnels et tout ça, mais le tri se fera plus tard. Hein, ce n'est pas à nous de faire le tri, c'est le Seigneur qui fait le tri. Et là, toutes ces personnes sont là, mais bon, quand la persécution frappera vraiment, eh bien, ce sont que les vrais qui se réclameront du Seigneur, n'est-ce pas? Mais ce que je trouve, vous voyez au verset 16, et là, vous voyez qu'on est en train de passer à une étape suivante, parce que il dit la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Les villes voisines de Jérusalem, eh bien, c'est la Judée. Et vous souvenez, dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus avait dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités du monde. Là, on est en train de passer à l'étape 2, hein, la Judée. L'œuvre de Dieu est en train de se faire. Personne, il n'y a pas une intelligence humaine qui est derrière pour contrôler, mais l'œuvre de Dieu est en train de se faire. On passe à l'étape 2, la Judée. Je vous raconte pas toute l'histoire, mais là, bien sûr, ça sera tellement frappant et tellement de gens qui sont guéris et il nous dit la multitude accourait, il y avait la foule et les pharisiens et les sadducéens et les hérodiens, tout cela, ben ils savent plus quoi faire. La foule est là et comme à l'époque de Jésus. Et ils sont là en train de subir une situation qu'ils ne contrôlent pas, ils ne savent pas quoi en faire, et en même temps, ils n'approuvent pas. Et surtout, pensez à Jean chapitre 11, là, juste après la résurrection de Lazare, et tout le monde venait pour voir Lazare et tomber dans le coin, et les pharisiens, ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient même envie de tuer Lazare pour arrêter la chose, et Jésus et Lazare. Donc, c'est eux qui sont dans la panique, ils ne savent pas quoi faire, ils ne maîtrisent plus la situation. C'est pour ça que je dis, ils sont en train de subir une situation. Et le Seigneur, il ne s'occupe même pas d'eux. C'est eux qui la subissent tout seuls, mais lui, il continue son œuvre. Et alors, verset 17, alors ils réagissent comme ils peuvent, et comme ils ont l'habitude de faire, et comme ils ont toujours fait. Et ça ne leur a jamais rien apporté, mais bon, ils se réunissent, le grand congrès, les sadducéens et les pharisiens se réunissent et ils vont faire quelque chose ensemble, c'est rare où ils s'entendent. Hein, vous savez comment l'apôtre Paul a utilisé ça, parce qu'il savait, lui, il avait fait partie de ce groupe-là, et il savait que ça ne prenait pas grand-chose pour les diviser, et il s'était sauvé la vie, humainement parlant, par cette même situation. Mais là, ces deux groupes, les sadducéens et les pharisiens, se rassemblent, et puis ils font arrêter les apôtres, et il nous dit que, verset 17, il nous dit qu'ils étaient remplis de jalousie. Eh bien, dans Matthieu 27, verset 18, eh bien, Pilate, il sait que les pharisiens voulaient la mort de Jésus, mais c'était par envie. Eh bien, écoutez, l'envie et la jalousie, il n'y a pas une grande différence. Hein. le résultat est le même. Et alors, verset 18, ils mettent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Alors, il n'y a rien qui nous empêche de croire que ce sont tous les 12, hein, puisque ce n'est pas seulement Pierre et Jean comme la première fois, parce qu'au verset 29, il nous dit « Pierre et les apôtres ». Donc, apparemment, c'est tout le monde. Hein, il y a une forte chance, en tous les cas, ils sont nombreux, ils sont tous jetés en prison là, et on va les garder jusqu'au matin. Mais, là encore, qui est-ce qui contrôle la situation? Hein, on les met en prison, on met les gardes, la puissance humaine, l'autorité humaine est là, elle essaye de maintenir la situation, mais pendant la nuit, verset 19, un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez !» et il les libère. Et il le fait de telle manière que le lendemain matin, hein, quand les huissiers arrivent au verset 22, et ils ne trouvèrent point, les trouvèrent point dans la prison, ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes étaient devant les portes. » Mais après les avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » C'est certain, il y avait de quoi faire aller sourire. Hein. Eux qui allaient prendre contrôle de cette situation, tout d'un coup, elle leur échappe. Hein, et donc, il nous dit, et là, c'est ça qui me fait sourire aussi, c'est que au verset 24, il dit, lorsque ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Hein, ils étaient complètement démunis. Hein, qui est-ce qui contrôle ces sujets? C'est pas l'homme, c'est le Seigneur. Même si ses apôtres, ses serviteurs sont en prison, Dieu contrôle la situation. Et ne l'oublions pas. Et puis remarquez, je reviens en arrière au verset 20, quand les anges les ont libérés, et puis il leur a dit, il n'a pas dit, quittez Jérusalem, fuyez, sauvez-vous, hein, je vous relâche, mais sauvez-vous. Non, il dit au verset 20, allez, tenez-vous dans le temple, et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Et alors, au verset 21, ils ont fait exactement cela, et ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Comme si rien ne s'était passé. Et bien sûr, un peu plus tard, il nous dit au verset 26, alors que les commandants du temple... Donc, les principaux sacrificateurs sont en train de se regarder les uns les autres, en train de se demander ce qu'ils vont faire. Eh bien, il nous dit au verset 25, quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Voilà exactement ce que les anges leur a dit de faire, exactement ce que le Seigneur leur a dit de faire, il a dit, « Vous serez mes témoins. » Exactement ce pourquoi ils avaient été remplis du Saint-Esprit à la fin du chapitre 4, eh bien là, ils sont en train d'enseigner. Et alors, les huissiers vont gentiment avec des gants de velours, hein, et ils ramènent tous ses disciples, ils les amènent devant le Sanhédrin, ils rassemblent tout ce monde. Regardez, encore une fois, je vous donne un détail. Hein, vous voyez qu'ils sont en train de subir la situation. Regardez verset 28, il dit « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Il dit « Voilà, la situation, elle a rempli, elle est débordée, on n'a pas pu arrêter la chose. On avait cru arrêter cet enseignement lorsqu'on a crucifié Jésus. Ça ne s'est pas arrêté. On vous a dit de vous taire, vous n'êtes pas tu. Et là, maintenant, la situation, elle est remplie. Et en plus, vous voulez mettre sur nous le sang de cet homme. » Mais il ne voulait pas prononcer son nom. Le nom de Jésus, il ne voulait pas le prononcer. C'est quand on a peur de prononcer un nom, c'est que le nom représente quelque chose, n'est-ce pas? Mais il dit « retombez sur nous le sang de cet homme ». Comme si maintenant ils veulent s'en défaire, et non, c'est pas nous, mais c'était eux qui, en Matthieu 27, versets 24 à 25, avaient dit que son sang retombe sur nos têtes et sur nos têtes de nos enfants. Hein, c'est eux qui l'avaient voulu, et maintenant ils essayent d'échapper. Vous savez, vous ne pouvez pas compter sur l'homme pécheur, il n'a pas une parole. Et alors, Pierre et les apôtres leur posent la question, une question qui était claire. Hein, ils répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on doit obéir à Dieu. C'était un peu, ça nous fait penser à Daniel, lorsque, sous Belshazzar, ils ont interdit l'adoration, la prière à aucun autre dieu, sinon le roi lui-même. Et Daniel, lui, il est monté dans sa chambre, il a continué à prier comme d'habitude. Et c'était ça l'accusation, il prie comme d'habitude. Mais depuis quand est-ce qu'on peut ordonner à un enfant de Dieu de ne plus prier Dieu? Hein, il dit non, on obéit à Dieu. Et après, il ajoute, comme ça, dans le même élan, alors qu'ils ne peuvent pas, ils sont obligés de dire oui, même s'ils ne le disent pas, il n'y a pas besoin de répondre à cette question. Il ajoute, et le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois, ou le mot littéral, c'est à l'arbre, donc parlant de la croix. Et ils disent, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Et Pierre, lui, il ajoute, il dit, Dieu a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Et au verset 31, il l'a élevé, donc il l'a ressuscité par sa main droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et le message est total, c'est le même message que le jour de Pentecôte. Repentez-vous et recevez le Saint-Esprit. Hein, il dit la repentance, le pardon des péchés. Et il dit nous, et il ajoute au verset 32, nous sommes témoins de ces choses. Et Jésus a dit, vous serez mes témoins, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Eh bien, les deux éléments, le fait d'être un témoin et la puissance qui est le Saint-Esprit sont mentionnés dans ce verset 32. Il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et il ajoute cette notion, et c'est Pierre qui parle, il parle de l'obéissance. C'est dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2, et il nous parle justement que nous avons été choisis selon la préscience de Dieu pour être obéissants. Hein, donc, là, c'est la même pensée ici que l'apôtre Paul enseigne, c'est le même message que ce qu'il va donner dans ses épîtres plus tard lorsqu'il s'adressera aux chrétiens de Babylone, ou aux juifs de Babylone. Et alors, voilà, qui est-ce qui contrôle la situation? Qui est maître de la situation? Qui subit la situation? Hein, c'est qui essaie de se défendre? Hein, regardez comment le Saint-Esprit, qui prend ces hommes, qui ne sont que des gens qui n'ont pas fait d'études, on a déjà souligné cela, c'était des gens du peuple, mais ils sont en train de contrôler ces hommes qui représentent les érudits de la société. Et alors, bien sûr, verset 33, on peut imaginer, ces gens sont furieux. Hein, et ils pensent à qu'une chose, c'est les faire mourir. Hein, c'est ça, ils ont fait ça avec Jésus. Quand on ne sait pas le faire taire, on le tue. C'est ce qu'ils vont faire et ils vont vouloir faire ici. C'est ce qu'ils réussiront de faire avec Étienne. Et c'est quand on n'a plus d'arguments, on tue. Hein. Si tu avais des arguments valables, tu n'as pas besoin de tuer, tu réponds. Et l'argument portera son poids, il apportera sa valeur. Mais là, quand ils n'ont rien à dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de subir? Hein, c'est parce qu'ils sont en train de subir une situation, la seule chose auquel ils peuvent faire appel, c'est de mettre furieux. Être furieux, c'est la colère, de ce genre de colère de vouloir tuer, eh bien, c'est de celui qui se sent dépassé et vaincu. Et alors, là, je vois encore la main de Dieu. Parce que alors qu'ils sont furieux, il y a les 12 apôtres là, On a besoin de les préserver, de les garder. On a encore besoin d'eux. L'Église n'est pas fortement établie. Et Dieu ne va pas permettre qu'eux soient tués. Mais le moyen que Dieu utilise, c'est quelqu'un du milieu des pharisiens. Et bien sûr, lorsque c'est un pharisien qui va parler, eh bien, ça va faire une division, et les sadducéens et les pharisiens vont se ranger chacun de son côté. Et là, il s'agissait d'un docteur de la loi qui était estimé. C'est au pied de cet homme-là que l'apôtre Paul aura fait ses études, hein, en tant que jeune homme. Il aurait sa formation. Et lui, dans sa sagesse, il fait sortir les apôtres, hein, pour qu'ils puissent discuter entre eux. Et puis, il leur dit, écoutez, ne prenons pas le risque d'aller contre la volonté de Dieu. Il discerne qu'il y a une autre puissance, une autre force qui est en train d'agir là et qu'eux ne maîtrisent pas. Et pour lui, c'est où ? C'est les forces du mal ou c'est les forces du bien ? C'est où Dieu ou c'est le diable ? Mais c'est plus que eux, ils n'arrivent pas à le contrôler. Et lui, il le discerne et leur dit, écoutez, il y a déjà eu des mouvements, hein, des mouvements de foule, des gens qui sont venus et qui sont partis. Mais il dit, ne nous laissons pas influencer, laissons faire. Hein. Laisse courir le feu de forêt, il s'éteindra tout seul, faute de bois. Hein, laissons faire. Et surtout, ne courons pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et là, c'est sûr que c'est quelque chose qui faisait vraiment peur aux pharisiens. Ils étaient tellement, voulaient plaire à Dieu. Hein. C'est pour ça que quand ils fouettaient quelqu'un, au lieu de lui donner tous les 40 coups, ils s'arrêtaient à 39 pour être sûr qu'ils ne s'étaient pas trompés, parce qu'ils ne voulaient pas faire 41. Hein. Donc, ils s'arrêtaient à court. Et l'apôtre Paul parlera combien de fois il aurait été battu, 40 moins 1, hein, 40 coups moins 1. Donc c'était, et là ils ont cette crainte, cette peur d'aller contre Dieu. Hein, donc là, et Gamaliel, il sait cela, et il se sert de cela. Et finalement, verset 40, eh bien il nous dit, ils se rangèrent à son avis. Donc ils ont trouvé une sortie, où ils ont pu sauver leur honneur, parce que c'est pas parce qu'ils ont cédé devant les apôtres, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas aller contre Dieu, hein, combattre contre Dieu. Donc ils trouvent une manière de sortir avec honneur. Mais ça n'empêche pas qu'au verset 40, ils ont fait battre de verges les apôtres, et puis encore une fois, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Comme la dernière fois, ne sachant pas quoi faire, hein, ils sont là, ils sont démunis, il n'y a aucune autorité, il y a eu beaucoup de rugissements, mais le lion n'a pas de dents, hein, et donc on les relâche. Et au verset 41, il nous dit alors, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom, pas n'importe quel nom, le nom de Jésus. Finalement, dans tout ce passage-là, quel est le nom qui est levé ? Eh bien, au début, il nous parle de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes. On vient, on leur dit, mais écoutez, vous voulez mettre sur nous le sang de cet homme ? Et Pierre leur dit, mais cet homme, hein, vous le connaissez, c'est vous qui l'avez mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Et maintenant, ils sont là. Et ils se réjouissent parce qu'ils ont pu subir un peu de souffrance, sachant que Jésus avait subi une grande souffrance pour eux. Et donc, ils sont dans la joie de pouvoir, et l'apôtre Paul parlera de la communion de ces souffrances, hein, de pouvoir partager avec le Seigneur. Hein, c'était, vous savez que ce qui était dit à Saul sur le chemin de Tars, il dit, pourquoi me persécutes-tu ? Bon, Saul, en tant que pharisien, c'était la chose la plus terrible, c'est de combattre Dieu. Mais aussi, c'était c'était le fait de se retrouver, c'était ce Jésus. C'est Jésus qui lui parlait. Et là, vous savez, le Seigneur est maître de la situation. Même dans la période de l'épreuve, le Seigneur est maître. Et bon, actuellement en France, nous passons par une épreuve que tout le monde subit. Mais pour l'enfant de Dieu, eh bien, nous pouvons nous détendre. Pourquoi ? Parce que même au sein de l'épreuve et des moments difficiles, nous ne subissons pas. C'est le monde qui subit. Et le monde est en train de subir, ici en France, et le monde entier est en train de subir quelque chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, cela nous provoque à élever nos pensées vers le Seigneur et penser à cette bienheureuse espérance et notre délivrance. Et au verset 42, il nous dit, « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, qui contrôle la situation ? Qui subit ici la situation ?» Et il dit, « Les disciples, eux, régulièrement, tous les jours, dans le temple, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Ils sont maîtres de la situation, parce qu'ils sont les serviteurs du maître de la situation. Et c'est à nous aussi de trouver, de savoir lire les événements et les circonstances. C'est pas notre première impression qui est importante, c'est de regarder de plus près et de voir que discrètement, le Seigneur contrôle. Il les a libérés de la prison, quand ils ont failli être mis à mort, eh bien c'est Gamaliel, un des leurs qui les retient, mais le message continue, ce même message. Et donc, c'est à nous de rester fidèles au Seigneur, et soyons fidèles au Seigneur, malgré ce qu'on peut voir, comme impression on peut avoir, et ce qu'on peut entendre aux médias. Ce qui importe pour nous, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et lui, il ne tient pas compte de ce que se dit aux médias, il dit ce qu'il a l'intention de faire, et il l'accomplit. Et il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc faisons confiance à cette parole du Seigneur. Que le Seigneur vous garde et vous encourage. Et à bientôt.